Bonjour et bienvenue dans Fire Escape, je suis Arthur Genre et aujourd'hui je discute avec Wilfried Penney, un des seuls français à jouer au football américain pour une grande équipe, et pas n'importe laquelle, une des plus grandes équipes de football universitaire du pays. Pendant cet échange, il me racontera comment il est parti vivre aux États-Unis à 17 ans alors qu'il ne parlait pas anglais, comment il a obtenu une bourse pour jouer au plus haut niveau du football américain, et comment il travaille dur tous les jours dans l'objectif de rejoindre la NFL dès l'année prochaine. Sans plus attendre, partons en Virginie pour découvrir la vraie vie américaine d'un sportif dans une des meilleures universités du pays.
Eh bien, bienvenue Wilfried, merci beaucoup pour ton temps et merci de participer.
Merci à toi.
Bienvenue dans le podcast, ça me fait hyper plaisir de pouvoir te parler enfin. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ?
Du coup, moi c'est Wilfried Penney, je viens de Tours, donc originaire de France, je viens de Tours et je joue au football américain. Et actuellement, j'évolue à Virginia Tech, aux États-Unis.
Déjà, bravo pour ton parcours, parce que j'ai lu quelques trucs sur toi, j'ai écouté quelques podcasts, c'est pas impressionnant.
Merci.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste parler un peu de ton quotidien aux États-Unis. Virginia Tech, c'est dans une petite ville qui s'appelle Blacksburg, c'est ça ?
C'est ça.
Ça ressemble à quoi comme ville ?
C'est un grand campus. En soi, c'est le campus, c'est la ville.
Ok.
Entre guillemets. Donc, ça veut dire que tu as des bars, etc. Mais en soi, sinon, c'est vraiment des buildings de classe, etc. C'est vraiment petit.
Donc, c'est une ville universitaire. Tout tourne autour de l'université.
C'est ça. Okay. C'est ça.
Donc, il doit y avoir ce côté un peu où tout le monde se connaît, tout le monde est étudiant, les bars doivent vous connaître. Surtout, toi, tu fais partie de l'équipe. Donc, c'est spécial.
C'est ça, les bars, restaurants et tout, c'est facile de nous reconnaître, hein.
Okay.
Tous ceux qui sont athlètes, etc.
Je sais que tu es venu aux États-Unis principalement pour ta carrière, pour le football américain. Est-ce que avant de faire du football, l'Amérique, ça te faisait un peu rêver ou ça t'attirait ? Est-ce que tu avais des références en culture américaine qui te parlaient ou pas particulièrement ?
Ouais, ça m'a toujours un peu plu, surtout le côté un peu hip-hop, etc.
Ouais.
Je me souviens, étant jeune, j'avais fait du hip-hop en club et tout. Avec des potes, etc. Donc, j'ai toujours eu cette petite culture américaine. Donc, ça m'a toujours plu un petit peu.
Et avant de faire du football américain, est-ce que tu te voyais un jour vivre là-bas ?
Vivre, je ne sais pas. Je ne me souviens pas trop, je ne pense pas, mais vouloir venir ici, etc. Ouais, c'était un de mes buts.
Ok. Donc, principalement pour les références culturelles, genre la musique, les films un petit peu aussi ou pas forcément ?
Ouais. Ouais, les films, tout ce qui est un peu old school, etc.
Ok. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football américain ?
Bah, en fait, ça a tout a commencé avec des coachs qui m'ont repéré.
Ok.
Et c'était des portes ouvertes. Et ils m'ont repéré au loin. Ils m'ont accosté. Et de là, tout a commencé. Hein. Ils m'ont dit ce que tu voulais jouer au foot. J'ai fait ouais. Et du coup, de là, après, boum.
J'ai commencé, j'avais une carrure
c'est ça.
Qui était bonne pour le foot, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Et avant ça, tu faisais déjà pas mal de sport ?
Ouais, je faisais beaucoup de sport, tout ce qui est un peu lutte, judo, de la boxe, etc., etc.
Ok. Et le football, c'est un truc qui t'attirait un petit peu avant ou t'as vraiment découvert ça après ces portes ouvertes ?
J'avais déjà vu quelques vidéos au tout début de YouTube.
Okay.
J'étais jeune, hein. C'était quand YouTube venait à peu près de commencer, etc. Donc j'avais vu qu'il y avait des photos un peu des vidéos dessus de foot américain et un jour j'ai demandé à ma mère y a pas ça en France et tout. On avait cherché pendant longtemps, on n'avait jamais trouvé et du coup j'avais un peu abandonné cette idée de faire du foot américain jusqu'au jour où les coachs m'ont repéré et m'ont expliqué qu'il y avait un club à Tours.
Ok. Et je sais que ta carrière en France, elle était déjà assez impressionnante avant d'aller aux États-Unis. Tu as joué dans une des plus grosses équipes à Amiens, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'ai joué du coup, j'ai commencé aux Pionniers, ensuite je suis parti, du coup, les Pionniers de Touraine. Ensuite, je suis parti sur Amiens, au Pôle France. Et en même temps, je jouais avec les Spartiates. Okay. À l'époque, on était du coup en D2. On est arrivé champion de France. Et puis voilà.
Comment tu t'es senti les premières semaines où tu t'es entraîné pour faire du foot quand tu as commencé à apprendre les règles quand j'étais sur le terrain, comment tu te sentais à ce moment-là ?
Je me sentais bien, en fait c'est rentré tout de suite. Je suis une personne, tu vas lui expliquer une ou deux fois,
okay.
Et je vais comprendre les choses assez rapidement. Donc quand mes coachs m'ont expliqué quoi faire, comment faire, etc., J'ai tout de suite tilté, j'ai tout de suite eu les bonnes aptitudes, etc. Donc voilà, hein. Donc j'ai tout de suite kiffé.
Donc c'est comme ça que tu as réussi à être champion de France alors que tu n'en avais encore jamais fait quelques années avant.
C'est ça.
Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi ça ressemble le monde du football américain en France? Parce que je sais qu'il y a une fédération française de foot, il y a pas mal d'équipes, mais on en parle très peu. Comme tu disais, on a l'impression que ça n'existe pas en France alors que ça a l'air d'être un petit monde assez actif quand même. Ça ressemble à quoi?
Bah, c'est, tu sais, comme tous les petits clubs, entre guillemets, tous les sports, entre guillemets, en France, hein, c'est après les cours, tu t'inscris au club, tu fais partie d'un club où justement bah, tu joues au foot, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes structures qu'aux États-Unis. C'est vrai que c'est plus petit, c'est vrai qu'il y a forcément beaucoup moins de coachs, il y a aussi beaucoup moins d'heures d'entraînement.
Ok.
Mais sinon, c'est vraiment comme tous les petits clubs, tous les clubs entre guillemets de sport en France, etc. Donc, tu apprends les règles, comment ça s'appelle, de la préparation physique, etc. Et en même temps, tu apprends tout ce qui est technique, etc. Mais c'est vrai que en France, c'est pas encore très très connu. Pourtant, ça commence vraiment à grandir. On a même une ligue professionnelle qui s'est ouverte à Paris.
Ok, je me posais la question.
Ouais. Et du coup, cette ligue professionnelle, bah, je pense que ça va commencer aussi à mettre un peu l'œil sur nous en France. Et après, il y a aussi beaucoup de joueurs maintenant qui commencent à venir aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, on essaye de vraiment faire développer ce sport en France et le faire connaître surtout.
Ok, trop bien. Et du coup, toi, tu as préféré partir aux États-Unis, parce que je pense que c'est la suite logique. T'es parti à 18 ans, c'est ça, dans le Connecticut?
C'est ça, ouais, j'avais 18, je venais d'avoir, non, j'allais avoir 18 ans,
Ok.
j'avais encore 17 ans à l'époque.
Donc t'es parti, c'était en high school, au lycée,
C'est ça,
Saint-Thomas-Smart.
ouais.
Comment tu t'es senti la première fois que t'as posé le pied aux États-Unis?
Un monde différent.
Ouais.
Déjà, je parlais pas la langue.
Ok.
Je suis vraiment parti en vraiment comme ça. Ça s'est fait très vite. En moins de 2 mois, j'ai eu tous mes papiers faits, j'ai eu tout,
Ah
tout, tout
ouais.
fait. Donc, ça s'est vraiment fait très, très rapidement. Et du coup, c'est vrai qu'au début, bah, la barrière de la langue a fait que bah, j'étais plus un peu dans mon coin ou autre. Mais après, une fois que j'ai commencé à prendre mes marques et surtout, entre guillemets, à jouer au foot, car aux États-Unis, c'est surtout ça, ils vont te juger pas parce que tu es français ou autre, ils vont toujours avoir cette petite appréhension, mais ils vont te juger par rapport à ton level, et à comment, how well you are to play.
Ouais.
Donc, si tu leur prouves que tu peux jouer, ils vont tout de suite faire, ah ouais, non, tu peux jouer, ah ouais, bah bienvenue, etc., etc. Ils vont te
Ok.
respecter. Voilà, c'est ça. Ils vont te respecter.
T'as commencé à jouer tout de suite ta première année?
Du coup, je suis arrivé en 2018. J'ai pas joué cette année vu que je suis arrivé en retard
Ok.
dans l'école. Parce qu'en réalité, avant ça, je suis passé par pas mal d'autres petites écoles où il y a eu c'était des manigances un peu bizarres, donc j'ai pas kiffé,
Ok.
etc. Donc ça, c'est un épisode que très peu de gens connaissent
Ok.
avant d'arriver à Saint-Thomas-More justement. Mais du coup, j'ai pas joué cette première année. Parce qu'en soi, j'ai fait 1 an et demi à Saint-Thomas-More et j'ai joué ma dernière année de lycée américain où justement j'ai joué tous les matchs. On avait 7 matchs cette année-là seulement,
Ok.
vu que c'était une école privée, mais les autres écoles ne nous aimaient pas. Du coup, on n'était pas vraiment dans un championnat, on était plus dans un championnat entre guillemets indépendant. Donc, c'est-à-dire que c'était nos coachs qui devaient aller chercher les matchs, etc., en pré-saison pour jouer contre d'autres équipes. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était galère. On n'avait que 7 matchs, mais j'ai quand même réussi à me faire opérer pour venir en collège.
Et pour rester juste rapidement sur la high school, t'avais déjà été aux États-Unis avant de venir là-bas ou pas?
Jamais.
Ok.
J'avais juste fait un peu l'Europe et c'est tout.
Ok. Donc là, t'as 17 ans, t'as jamais été aux États-Unis et t'arrives tout seul donc sur la côte Est. T'étais logé dans une famille d'accueil ou t'avais ton appartement, ça se passait comment?
Du coup, non, quand j'étais à l'école, on avait des dorms.
Ok.
Ouais,
Ah
on
donc même
avait.
au lycée, ils ont un petit campus avec des
C'est ça,
étudiants.
vu qu'on était dans une école privée.
Ok. Quand t'es arrivé ici, en dehors du côté scolaire, c'est quoi les choses qui t'ont surprise?
Les choses qui m'ont surprise le plus, déjà, on va pas se mentir, hein, au niveau de l'alimentation, etc.
Ouais.
Très très différent de la France. Les tailles, même par exemple au McDo, etc., les trucs comme ça,
Ouais.
les tailles sont différentes, la nourriture est différente. Après ça, l'aspect, on va dire, un peu culturel, où y a pas, ça se mélange pas beaucoup, j'ai l'impression, aux États-Unis, c'est très rare, tu vas avoir de la mixité. Comparé à en France où tu vas avoir des groupes un peu plus de toutes les ethnies, alors qu'aux États-Unis c'est vraiment très très comment on appelle ça
Un peu communautaire.
ouais ça très communautaire je dirais.
Ouais.
Donc c'est une différence qui a fait que au début j'étais un peu ok c'est différent.
Ouais.
Après j'étais déjà plus habitué avec les films etc. Hein. Donc ça m'a pas vraiment choqué en soi mais c'est juste le fait de le vivre en réel qui fait que ça fait bizarre.
T'as retrouvé un peu les références que t'avais dans les films ou dans la musique, ce genre de truc que tu voyais depuis la France?
Ouais, un petit peu. Un petit peu au niveau, forcément, tout ce qui est un peu de la vie quotidienne et même après au niveau, tu sais, de la vie en tant qu'athlète.
Ouais.
C'est vrai que tout ce qu'on voit un peu dans les films ou autre, des fois, c'est un peu exagéré, un peu plus exagéré.
Ouais.
En même temps, c'est des films, mais en même temps, tu te dis, ah ouais, c'est similaire à ce que je vois dans les films ou les séries, etc.
Ok. Et tu disais que du coup tu parlais pas anglais au début. Ça t'a pris combien de temps pour réussir à vraiment être à l'aise avec ça et comment t'as fait pour réussir à bien communiquer?
Je vais dire, il m'a fallu à peu près un an pour comprendre à peu près comme il faut et à parler.
Ouais.
Et après, à l'heure d'aujourd'hui encore, hein, j'apprends toujours, surtout au niveau de la prononciation.
Ok.
C'est juste ça qui fait que des fois, les gens ils peuvent demander, t'as dit quoi ou etc. Tu peux répéter parce qu'encore une fois, j'ai l'accent français. Donc, au début, ils vont pas l'entendre si je dis des phrases simples.
Ouais.
Mais à un moment, quand on commence à parler plus profondément, les gens vont dire, ah, mais t'as un accent en fait. Et c'est là que ouais, j'apprends tous les jours. Mais il m'a fallu une bonne année.
Donc c'était vraiment le fait de pratiquer, finalement, ça a fini par rentrer tout seul.
C'est ça.
T'avais des cours pour te faire progresser ou c'était juste le fait d'être là-bas qui t'a aidé?
Ah non, vraiment le fait d'être là-bas, parce que j'ai été tout de suite plongé dans les classes normales, hein.
Ok.
Classe d'anglais normale, classe d'histoire, mais en anglais, des sciences, mais en anglais.
T'as fait
Donc
comment
j'étais.
pour suivre tout ça les premières années?
Hey, au début, c'était Google Traduction.
Ah ouais.
Téléphone, il était à côté de moi. Google Traduction. C'était lire, entre guillemets, lire, j'arrivais
Ouais.
assez aisément à le comprendre. Mais c'était vraiment plus après entre guillemets, l'écrire et après à le parler. C'est ce qui m'a demandé le plus de temps, surtout
Ouais.
le parler.
Ouais, c'est trop bien, parce que finalement, un an et demi, c'est pas tant de temps que ça pour apprendre une langue et pouvoir parler et tout. Donc, bien joué, hein.
C'est ça.
Absolue, tu as été à Virginia Tech avec une bourse d'études pour
C'est ça.
sportifs. L'équipe, c'est les Hokies de Virginia Tech. Donc, c'est une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Comment ça s'est passé pour obtenir cette bourse?
Du coup, ça s'est fait sur ma dernière année. Entre les matchs, etc., je commençais à avoir quelques intérêts au niveau des offres universitaires.
Ouais.
Et mon coach connaissait un des coachs qui est un des anciens entraîneurs à Virginia Tech. Et il lui a dit, écoute, moi j'ai quelques bons joueurs ici à Saint-Thomas-More. Si tu veux, tu viens, etc. Et je te les présente. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Ce coach-là est venu à quelques entraînements et après à quelques matchs. Et à force de venir, à force de qu'on parle, lui et moi, etc., à la fin, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, écoute, on t'offre.
Ok. Donc déjà, pour réussir à entrer dans une équipe qui joue en NCAA, et en plus là c'est en première division, donc c'est vraiment le plus gros truc en université, c'est un peu comme... Enfin, ça doit être un sacré parcours, faut déjà être très très bon pour être choisi, j'imagine.
C'est ça, c'est un recrutement très compétitif, hein, parce que tu te dis, t'es quand même évalué sur tous les joueurs qui peuvent voir aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à sortir du lot. Après, il y a toujours un petit peu ce facteur chance. Donc, moi, j'avais un petit peu ce côté facteur chance de que mon coach le connaissait et qu'il lui a dit de passer ce jour-là. Du coup, en plus, j'avais fait une bonne practice. Donc, tu vois, le facteur chance, c'est bien fait. Et après, bah forcément, après, voilà, après sur Twitter, c'est surtout comme ça qu'aussi les recrutements se font beaucoup.
Ok.
Moi, je savais très bien, je faisais un peu de trash talk à l'époque. Quand, par exemple, j'avais un match le week-end et que je jouais contre une personne qui avait un scholarship de, par exemple, Alabama, Georgia, des trucs comme ça, bah moi, je
Ouais.
disais, regardez, si j'arrive à avoir un sac, j'arrive à avoir à catcher sur lui, alors qu'il a cette offre-là, elles sont mes offres. Et en
Ouais.
fait, à force de faire ça, bah, les coachs se sont dit, ah ouais, c'est vrai, il arrive à détruire, entre guillemets, des joueurs qui ont des grosses offres. Comment ça se fait qu'il n'en a pas? En même temps, parce que j'étais nouveau, mais du coup, ça a fait que bah, j'ai eu un peu plus d'attention. Et à la fin, j'ai pu décrocher quelques scholarships, quelques bourses dans plusieurs différentes universitaires.
Ok. Tu penses que le fait d'être français, ça change quelque chose, ou à partir du moment où t'es bon, ça change, c'est la même chose?
Faut que tu prouves plus en tant
Ouais.
que surtout en tant que Français. On est un pays où le foot américain est pas connu pour. Les Américains savent pas qu'on joue au foot américain là-haut. Ça veut dire que bah tu dois prouver plus, tu dois montrer double, tu dois t'entraîner plus, etc. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'ai fait mes preuves aux entraînements, etc. Mais quand même à l'heure d'aujourd'hui, je suis quand même obligé de toujours montrer plus. Pour avoir entre guillemets le respect de mes coachs, qu'ils soient toujours OK, oui, il est toujours là, il est toujours présent, etc. Tu es obligé de faire plus que les Américains. Mais en même temps, du coup, c'est une mentalité qu'entre guillemets, quand tu es étranger, je veux dire, qu'on a et qui est mieux que les Américains, c'est que les Américains, eux, ils sont tellement habitués que c'est normal pour eux, que vu que pour nous, c'est pas normal, eh ben, on travaille deux fois plus et on a cette éthique de travail qui est présente, et on le voit et les coachs le voient.
Ok, donc tu dois toujours te battre pour réussir à faire tes preuves, même
C'est
si tu
ça.
penses avoir le même niveau, voire être meilleur que d'autres Américains qui, eux,
C'est ça.
bon, font sont normaux, quoi.
Parce qu'ils vont avoir plus confiance en une personne, ça fait longtemps qu'il y joue, qu'une personne qui a fait du football américain aux États-Unis que depuis quelques années maintenant. Donc, ils auront toujours ce petit côté un petit peu ah, il est
Ok, ouais,
français.
je vois. Je me demandais du coup, puisque le sport universitaire c'est hyper important pour beaucoup de personnes, c'est quasi aussi important que le sport pro. En tout cas, c'est autant suivi, voire plus suivi parfois. Du coup, c'est quoi ton statut en tant que joueur? Comment est-ce que les gens ils te voient, que ce soit dans la ville ou même, j'imagine, en dehors?
Bah, tu connais, hein, je suis pas une superstar, hein, donc. Ils arrivent à me reconnaître, ils disent, ah, c'est pas toi le. Par exemple, des fois, ça m'arrive, ça quand je parle, ils me demandent d'où je viens.
Ouais.
Et ils me font, ah, mais du coup, c'est toi le français, etc. Je fais, oui, c'est moi, etc. Donc, des fois, je vais être un peu reconnu quand je vais parler et qu'ils vont me demander, est-ce que tu fais du foot américain, hein, ou autre, et que je leur explique après un peu, ouais, c'est moi, ouais, moi, je suis tel joueur. Ils font, ah, ouais, ok, et tout. Donc, après, ils arrivent à mettre l'image, entre guillemets, sur le nom maintenant. Quelquefois ça arrive, donc voilà, mais après sans plus, quoi.
Donc le cliché des joueurs américains dans les facs qui sont hyper populaires, c'est pas forcément vrai. Je pense que vous avez même pas le temps pour ça en fait.
Ah si, si, quand, ça
Ouais.
c'est quand même, ils arrivent, genre, c'est pas, on est reconnaissable.
OK.
Souvent on est, bah, je dirais pas les plus grands parce que t'as les basketteurs, mais souvent on est les plus costauds, entre guillemets,
Ouais, c'est sûr que physiquement, vous devez être reconnaissable déjà.
Donc voilà, donc les gens ils savent qu'on est des footballeurs américains, etc. Ça c'est pas le problème.
Et toi, du coup, tu dois jongler entre les entraînements, mais aussi les cours, parce que c'est en business, c'est ça que t'étudies?
Du coup, j'ai étudié, ouais, en business, j'étais en business,
Ouais.
j'ai eu mon diplôme.
Ok.
Et là, du coup, maintenant, je fais une deuxième licence en tout ce qui est un peu sport, food, alimentation, nutrition, etc. maintenant.
Ok. Donc, tu as eu un BA et tu vas en faire un deuxième.
C'est ça. Là,
Ok.
je suis en train de le faire, là.
Ok. Et ça ressemble à quoi une semaine typique pour un joueur universitaire qui doit à la fois étudier pour son diplôme et en même temps s'entraîner pour être toujours au top dans le sport?
Du coup, là, par exemple, si je prends cette saison pour le moment, là, cette période de la saison, on est sur la off-season right now. Donc, ça veut dire que là, on s'entraîne le matin. Donc là, par exemple, j'ai muscu le matin avec des fois de la course.
Ok.
De la course, ouais. Le matin de 8h à peu près jusqu'à 10h. Après ça, j'ai cours. Là, par exemple, mes cours, moi, ils commencent le plus tôt que j'ai, il est à 11h. Et en général, je finis entre 2h, donc 14h. 14h, 15h, en
Ok.
général. Et après ça, soit je rentre et je me repose, ou sinon je retourne au facility où je fais par exemple, soit un peu d'étirement, soit sinon une petite séance légère en plus supplémentaire.
Ok. Donc tu dois vraiment avoir une vie qui tourne autour à la fois du sport et des études. Tu dois pas avoir beaucoup de temps pour faire d'autres choses.
Ouais, non, t'as pas forcément beaucoup de temps. Surtout, en fait, ça dépendra aussi surtout de tes classes, entre guillemets. Parce que du coup, là, maintenant, j'ai des classes un peu plus poussées, un peu plus scientifiques. Donc forcément, ça me demande aussi un peu plus de temps pour apprendre, etc. Que certaines autres licences qui vont être plus simples, donc tu vas avoir plus de temps libre, entre guillemets.
Ok. Et il paraît aussi que 2 fois par semaine, tu vas te lever vers 3-4 heures du matin pour aller t'entraîner, c'est vrai?
Donc ça, ouais, ça c'est pas encore, c'est bientôt.
Ok.
C'est entre guillemets, ça c'est donc chaque équipe a un nom différent. Nous par exemple, ça s'appelle le Hunger Drill. Et en mode c'est plein de drills. C'est très cardio, très mental. En fait, c'est pour pousser et pour nous souder tous ensemble.
Ok.
Mais c'est vraiment le but, c'est vraiment te détruire. Tu viens très tôt le matin et c'est très mental. C'est vraiment pour nous détruire, mais en même temps pour nous souder, pour dire, hé, les gars, regardez, on a vécu ça ensemble. Du coup, ça fait on a un lien entre guillemets entre nous maintenant. Mais ouais, c'est réel.
Donc je pense que déjà, il faut que tu entraînes ton corps, mais aussi il faut un mental de malade pour réussir à faire tout ça, pour
Ouais,
déjà
ouais,
pour
ouais.
tout gérer et en plus pour réussir à faire des entraînements pareils, tu fais quand pour garder ta discipline et pour rester motivé tout le temps?
Je dirais c'est parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif. Et en même temps, j'ai toujours été un gros bosseur. Donc, entre guillemets, le travail, ça ne me fait pas peur, etc. Mais après, c'est surtout, ouais, surtout mes objectifs, surtout les sacrifices que ma famille a fait pour moi, étant plus jeune.
Ouais.
Du coup, je me dois de leur rendre. Donc, je pense que c'est aussi ça qui me pousse. Et c'est aussi cet esprit de compétition, hein. J'aime bien la compétition. Donc, ça veut dire je veux battre tout le monde, je veux être le meilleur, etc. Donc c'est tous ces petits facteurs-là qui font que j'arrive à tenir.
Donc là, on est entre les 2 saisons, donc ça veut dire que tu t'entraînes tout le temps, c'est ça?
Ouais, tout le temps.
Et la saison, elle reprend quand?
Du coup, la saison reprendra en septembre. Début
Ok.
septembre, fin août, début septembre.
Ok.
Elle finira du coup après vers. Ça dépend entre novembre, décembre ou décembre, janvier. Ça dépend
Ok.
si tu vas au playoff, etc.
Ok. Et donc au début, quand tu es arrivé à Virginia Tech, tu étais du côté offensif et après tu es passé du côté défensif, c'est ça?
C'est ça. J'avais l'opportunité du coup en attaque au début. Et en fait, à mesure que la saison se déroule et qu'après on arrive en pré-saison, certains joueurs étaient blessés ou certains joueurs ont transféré, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont changés d'équipe, sont partis. Et en fait, je me suis aperçu que moi, je voulais jouer l'année qui arrivait l'année suivante. Et je me suis dit, écoute, là, je vois qu'il y a une petite opportunité. Je vais aller parler au head coach. Je vais lui demander si y a moyen que l'année prochaine, je joue. Et pour ça, est-ce que je peux passer en défense pour en plus donner un coup de main vu que je vois que vous avez un manque d'effectifs à ce niveau-là. Et en fait, ça a fait que ils ont accepté. Et depuis, j'y suis, quoi.
Pour avoir cette position-là, apparemment, tu as dû prendre beaucoup de poids.
Ouais. J'ai pris. J'étais à 245 LB. Donc ça fait du à peu près, je crois, 110, un truc dans le genre.
Ok.
Et j'ai dû prendre. Là, je suis à 280. Donc ça fait 130. Donc j'ai pris à peu près entre 20 à 30 kilos en moins de 6 mois, à peu près, à l'époque.
Et comment tu as fait pour prendre autant de kilos en si peu de temps?
Alors, la bouffe,
Ouais.
la protéine, créatine, mais beaucoup de bouffe. Et au début, j'ai pas trop aimé. En plus, après, du coup, la saison, quand j'avais joué à ce poids-là, parce que forcément, j'ai pris en muscle, mais aussi j'ai pris en gras.
Ouais.
Et du coup, forcément, je me sentais un peu moins à l'aise, moins rapide, etc. Comparé à peu près à maintenant, là où je me sens un peu mieux. Là, je sais que cette année, ce serait une bonne année. Mais ouais, j'avais dû prendre un bon poids.
Ok, donc j'imagine en fait que pour chaque position, il faut avoir un poids ou une carrure particulière et
C'est ça.
pour pouvoir mieux faire son boulot. En fait, tout doit être hyper précis, c'est ça?
C'est ça. Donc, tout ce qui est poids, taille, et aptitude, ça doit faire partie de la position. Donc, forcément, si t'es grand, mais que t'arrives pas à mettre en poids, c'est vrai que ça serait galère. Après, si t'es petit et que t'es agile, c'est des positions différentes. Donc, en fait, tout profil, c'est ça en fait qui est bien aussi au foot américain, c'est que tout profil est acceptable. Parce que on pourra trouver une position pour toi,
Ok.
peu importe ton profil. Et après, forcément, il y a certains profils, tu vas leur demander de jouer deux positions, ils vont être capables de le faire. Parce que génétiquement et tout, ils ont ce qu'il faut pour. Donc, je pense que c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'arrive à prendre en muscle et en force assez rapidement, ce qui a fait que la transition s'est faite plutôt simplement et facilement.
Ok. Et pour les gens qui connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi ta position et ton job dans les matchs?
Du coup, ma position, c'est ce qu'on appelle un defensive tackle. Donc, c'est le D-line qui est en ligne offensive intérieure. Donc, tu vas avoir la ligne offensive et la ligne défensive. Et en général, tu as quatre personnes en défense sur la ligne. Donc, tu vas avoir ceux qui sont sur les côtés. Donc, tu vas en avoir deux et tu vas en avoir deux qui sont à l'intérieur. Moi, je suis l'un des deux là qui sont à l'intérieur. Mon but, c'est d'empêcher toutes les courses intérieures de l'attaque et en même temps de détruire le jeu. Ça veut dire d'essayer d'aller attraper le quarterback avant qu'il lance le ballon,
OK.
etc. Donc c'est de créer en fait un chaos à l'intérieur de la
OK.
boîte.
Je vois. Mais il y a plein de préjugés sur le foot américain. On parle souvent de violence. On imagine, je pense, enfin, beaucoup de personnes doivent penser que tu dois juste sauter sur un gars et
Non.
l'assommer le plus possible.
Ouais,
On
mais
ignore
non.
souvent tout le côté stratégique qui est à côté.
C'est ça.
C'est quoi les clichés qui t'énervent un peu sur ce sport? Qu'est-ce que tu voudrais faire savoir aux gens qui connaissent mal ce sport? Tu as l'occasion de rétablir la vérité.
Pour les gens qui pensent que ouais, c'est un, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un sport de brute. Mais derrière ça, en fait, il y a tout un entraînement, plein de stratégies qui sont mises en place. Il y a des techniques très, très, très dures à exécuter pour juste faire cette action-là. Donc, quand, par exemple, les gens vont nous voir faire ce plaquage-là, ils vont juste voir deux gars se rentrer dedans. Mais ils ne vont pas voir le côté comment il en est arrivé là, comment il a réussi à amener le gars au sol, etc. Parce que derrière ça, il y a plein de techniques, il y a une stratégie. Ce n'est pas juste, par exemple, moi, je ne peux pas faire ce que je veux, entre guillemets, sur la ligne, parce que derrière moi, si je ne fais pas mon job correctement, bah, ça peut, derrière moi, ça peut les gêner. Il peut se passer une grosse course parce que j'étais pas dans mon gap entre guillemets, donc dans la zone où je devais être, etc. Donc les coachs entre guillemets, c'est les c'est comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire ouais. que nous on est les pions et les coachs ce sont les joueurs okay. entre guillemets. Donc c'est eux, ils font la stratégie et nous on l'exécute. Okay. C'est un sport très stratégique. C'est un jeu d'échecs.
Et un match, ça dure en général entre 2h30, 3h30 selon...
C'est ça, entre 2 à 3 heures selon bah, les pénalités, selon si par exemple tu joues contre une équipe qui fait beaucoup plus de courses ou de la passe.
Ok.
Car en fait, le chrono va s'arrêter. Donc, c'est un jeu long. C'est un jeu assez long, donc si on ne connaît pas forcément les règles, des fois c'est vrai qu'on peut trouver ça un peu ennuyant ou un peu long.
Ok. Donc du coup, il faut, une fois qu'on connaît bien les règles, j'imagine qu'on peut bien comprendre pourquoi chaque personne va aller à tel endroit ou
c'est ça, parce que
analyser
même,
le jeu.
C'est ça, parce que même toi, personnellement, tu vas te sentir un peu plus dans le game et tu vas te dire « Ah, mais pourquoi le coach il a fait cette stratégie ? Ah, mais pourquoi il a fait ça ?» Même avant l'action, tu vas voir « Ah, le joueur, il est là, peut-être qu'il va faire ça, ça, ça. » Donc même toi, déjà, tu te sens un peu plus... involve dans le game.
Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais là, le stade dans lequel tu joues, il y a quasiment 70 000 places.
C'est ça.
Et c'est presque toujours complet.
C'est toujours complet. Là, cette année, c'est toujours complet. C'était un truc de fou, franchement.
C'est quoi l'ambiance dans d'un match de foot américain universitaire ?
C'est très bruyant. Tu sens tout trembler, l'atmosphère incroyable, ça te donne des frissons. Et du coup, quand tu es sur le terrain en tant que joueur, bah, en fait, au début, nous, on s'en rend pas compte, maintenant, on est tellement habitué. Mais c'est vrai que, par exemple, mes premiers matchs, j'étais sur le terrain, je comprenais rien parce que j'entendais rien, je voyais du bruit, j'entendais du bruit. C'est vrai qu'au début, c'est très spécial, mais t'es choqué, en fait. C'est ça, en fait, le terme, c'est que t'es choqué. Tu t'attends pas à que ça soit aussi, aussi wow. Tu dois vraiment le vivre pour le comprendre. Beaucoup de gens me demandent, mais c'est très dur à expliquer. Faut le vivre pour comprendre.
Parce que toi, quand t'entres sur le stade, il y a la musique très forte, il y a des feux d'artifice, il y a du... Enfin, il y a les cheerleaders, je pense, au
c'est
milieu
ça,
du
ouais.
terrain.
Mmh.
Pour toi, tu dois rester concentré sur ton jeu, te dire que tu as gagné et en même temps, tu as tout ce bruit autour de toi. Comment
c'est
tu te sens au début ?
Bah, au début, justement, c'est comme je te disais, quand tu es, on va dire, un nouveau et que tu rentres sur le terrain et que tu vois tout ça, c'est vrai que ça peut enlever ton focus très facilement. Et ça, bah, après, tu l'apprends un peu avec le temps. Quand tu commences à avoir 2-3 matchs, etc., à faire 2-3 matchs, tu commences à, ok, c'est comme ça à peu près tout le temps, ok. Tu commences à être un peu plus focus, t'écoutes moins le bruit autour de toi, t'es vraiment plus focus dans le game. Mais c'est vrai qu'au début, quand t'es un nouveau, c'est assez dur de se concentrer.
Mais j'imagine que tu dois quand même être fier quand tu vois tous ces gens qui sont là pour soutenir ton équipe et surtout tous les week-ends. Ça va être
C'est
assez
ça.
Incroyable à vivre.
Ouais, non, franchement, c'est comme on dit, hein, c'est un blessing, c'est un honneur. Et encore une fois, il y a très peu de gens qui arrivent à jouer à ce niveau-là. Et forcément, quand moi, personnellement, en plus, en venant de France, je vois ça, je vis ça, je me dis, ah ouais, j'ai vraiment été honoré, quoi.
Et en dehors de ta vie de joueur américain, comment tu décrirais la vie universitaire américaine ? C'est quoi les choses que tu as trouvées un peu surprenantes, les trucs qui t'ont plu, les trucs qui t'ont un peu moins plu ?
Bah après, tu sais, hein, moi j'ai. Je suis, comme je t'ai dit, hein, je suis très occupé.
J'imagine.
Donc, mais en soi, sinon, c'est. Je dirais pas que rien m'a vraiment choqué, encore une fois, parce que bah, les séries,
Ouais.
on va pas se mentir, hein, tout ce qui est séries américaines, au niveau athlète, ou même un peu, tu sais, les séries un peu plus poussées, comiques, etc., c'est ce qu'on voit entre guillemets. Donc, t'as les frats, t'as les sororities, t'as tout ça. Les week-ends, tout le monde est bourré. C'est les bars, ils sont pleins. En soi, sinon, tout ce qu'on voit dans les trucs comme ça sont réels. Après, un peu plus exagérés, mais donc, en fait, j'ai déjà été préparé, entre guillemets, à tout ça juste en regardant les séries américaines, etc.
Ok. Et toi, t'as pu en profiter un peu cette vie américaine ou t'es trop
Ah oui,
concentré
non,
sur
si.
ton game?
Non, si, de temps en temps, tu connais, petite soirée à
Quand même.
l'américaine. Si, si, on en a vécu. Franchement, c'était pas mal.
Ouais.
Mais ça c'est les parties un peu. Voilà, on va
Ok,
garder
ça
secret.
tu le gardes pour toi. Voilà, avec après quasi 5 ans que tu vis ici, ce
C'est ça.
serait comment tu décrirais les principales différences culturelles entre les Américains et les Français sur le comportement, la façon de penser ou même l'ambiance?
Façon de penser, je dirais un peu plus. Ils sont un peu plus. Je dirais pas fermé, mais quand même un peu plus communautaire, très américain.
Ouais.
Donc, les Américains, voilà, sont les meilleurs, etc. C'est très patriotique, voilà.
Ok.
C'est très comme ça aux États-Unis. Après, c'est vrai qu'ils ont. Je dirais qu'ils sont. Bah, encore une fois, vu qu'ils sont très patriotiques, ils pensent pas que on a des rappeurs ou qu'on ait. Des trucs comme ça, ou que qu'on soit bon dans le rap, qu'on soit bon dans d'autres sports, except, à part le soccer, entre guillemets, le foot normal.
Ouais.
Pour eux, voilà, ils connaissent pas. Donc, c'est le seul truc qui, des fois, me dérange quand je parle avec certains Américains, c'est leur manque de comment on dit ça?
D'ouverture,
De culture, ouais,
de
d'ouverture, de
culture.
culture. Pour certains,
Ok.
pas tous, mais pour certains. Et c'est juste ça, des fois, qui fait que je suis un peu à. Je me dis, la France, des fois, c'est quand même mieux.
Ouais.
Après ça, et du coup, bah, forcément, du coup, la mentalité est un peu différente, du coup, vu que bah, on a une culture différente, on connaît plus de trucs, entre guillemets, je dirais, en France. Donc, on est plus ouvert, je dirais, en Europe, entre guillemets, en France, en Europe. Que les Américains se sortent un truc. Donc, c'est ça des fois que je préfère en France.
Et du coup, quand tu rentres en France, j'ai l'impression que tu rentres assez souvent. Il y a.
Non, ça va. Hein. Je rentre une ou. En vrai, je rentre qu'une seule fois ou deux fois max dans l'année. Hein.
Enfin, c'est déjà pas mal. Il y a des gens, ils partent, ils reviennent
Ah
pas.
oui.
Hein. C'est pour ça que je dis ça.
Ouais, c'est vrai.
Mais du coup,
C'est vrai.
quand tu rentres, en sachant que tu as été aux États-Unis depuis un moment, il y a des trucs qui te surprennent en France. Il y a des fois, il y a ce qu'on appelle des chocs culturels renversés. C'est des trucs que tu as vécu.
Choc culturel envers. Je dirais pas ça, non. Je dirais, il n'y a pas vraiment grand chose qui me choque. Surtout, moi, en fait, ce qui. À chaque fois, ce qui me, entre guillemets, me choque, c'est. Avec mes groupes d'amis, en fait, c'est vu que du coup, bah, je manque des anniversaires, des événements ou autre.
Ouais.
Par exemple, à chaque fois que je reviens en France, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Par exemple, il y avoir un groupe d'amis. Bah, cet ami-là, maintenant, il est plus à Tours, il habite à Paris. Cet ami-là, il habite à Toulouse maintenant, et des trucs comme ça. Donc, c'est ça qui fait juste. Ah ouais, je me dis, la dernière fois que j'étais en France, on était tous ensemble, et maintenant, bah, là que je rentre, boum, tout le monde est dispersé.
Ouais, je
Donc,
vois.
c'est plus des événements comme ça qui vont me choquer que vraiment des événements culturels, entre guillemets.
Quand tu es aux US, il y a des trucs qui te manquent en France, de la France, je veux dire.
La bouffe, hein.
Ouais.
Un bon grec, un bon kebab. Je vais pas te mentir, hein.
Ouais.
C'est moi, c'est ça qui me manque surtout après. Bah, tu connais les fromages. Moi, comment s'appelle? Du côté de ma mère, on est une famille de entre guillemets de bons vivants, c'est-à-dire du fromage, du vin,
Ouais.
etc. Et bah, du coup, forcément, c'est ça qui me manque un petit peu. Il n'y a pas forcément cet aspect-là aux États-Unis.
Parce qu'en plus, là où tu vis, enfin, c'est presque principalement sur le campus. Tu dois manger dans le genre la cantine du campus où tu vas faire tes courses, tu vis comme un Américain normal.
Du coup, bah là, moi, j'ai mon chez moi. Donc, entre guillemets, bah, moi, je me fais ma bouffe, etc. Mais après, des fois, on a notre cafétéria, entre guillemets, où il n'y a que les athlètes.
Ouais.
Donc, on a notre cafétéria spécifique à nous. Ou des fois, bah oui, je vais manger là-bas, etc. Mais en général, je préfère me faire ma propre nourriture.
J'imagine que tu as pu aller à d'autres endroits pour des matchs, pour jouer avec d'autres équipes aux États-Unis.
Ouais, du coup,
Vas-y.
je suis parti à tout ce qui est un peu. J'ai fait beaucoup toute la côte est,
Ok.
vraiment toute la côte est.
Et tu as eu le temps de visiter un peu quelques villes ou pas forcément?
Du coup, bah, j'ai un de mes amis en plus qui habite dans le New Jersey.
Ok.
Donc, ça veut dire que j'étais souvent sur New York, etc. Donc, je connais pas mal. Ensuite, j'ai fait quoi où je connais pas mal? Bah, tout ce qui est un peu Washington. Je connais pas mal aussi. J'ai visité la Caroline du Nord. Tout ce qui est Winston-Salem, tout ce qui est Charlottesville, etc. J'ai fait quoi d'autre en ville où j'ai un peu visité? Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Bah, tout ce qui est un peu ce qu'ils appellent Nova,
Ouais.
donc North of Virginia. J'ai visité là-haut. Puis voilà. Hein.
Il y a des coins qui t'ont plus marqué que d'autres?
En mode.
Genre qui t'ont particulièrement plu ou alors tu t'attendais pas du tout à ça?
Particulièrement plus. J'aime bien le New Jersey.
Ouais.
Jersey, j'aime bien. New York, c'est un peu trop de monde. Un
Ouais.
peu beaucoup trop de monde. Mais ça va, c'est correct. Nova, c'est pas mal aussi. En soi, non, franchement, la seule ville, j'avais visité une ville, je n'ai pas dit, Baltimore, du coup. Donc c'est pareil, Baltimore, t'as le bon côté de Baltimore, mais après t'as aussi le côté un peu moins bien. Et c'est vrai que c'était un truc qui m'avait marqué, surtout au début de quand j'étais venu en France, aux États-Unis. Pendant une semaine, j'ai vu 3 morts déjà
Ah ouais.
quand j'étais juste là-haut pour quelques semaines. Et c'est vrai que tu voyais un peu le ghetto et tout, et tu voyais, bah, on revenait d'entraînement, etc. Je voyais des gens par terre,
C'est ouf.
la police qui est arrivée, etc. C'était, ouais, non, c'était très ghetto quand j'avais été là-haut.
Ok.
Mais ouais. Mais après, sinon, il y a des côtés bons aussi. Mais ouais, les maisons aussi. Il y a beaucoup de grandes maisons aux États-Unis, hein. Dans certains endroits.
Là où t'es en Virginie, je pense que c'est surtout des très grands espaces, c'est ça?
Ouais, ça, tu vas avoir beaucoup de fermes où, vu qu'on est plus un peu le countryside, la campagne, etc. Donc, ouais, mais il y a aussi des grandes maisons aussi, hein, des grandes villas, etc. Mais c'est marrant parce que toutes ces grandes villas, elles sont très éloignées.
Ok.
Donc, tu dis, elles sont dans le milieu de nulle part. Tu penses. T'aurais jamais pensé qu'il y aurait plein de grandes maisons à cet endroit-là, et il y a des grandes maisons. C'est là où il y a tous les riches, entre guillemets.
Ouais, je vois. Est-ce que tu peux raconter si tu en as en tête de genre une galère que tu as eue dans ces 5 ans aux États-Unis?
Une galère. Bon, vas-y, hein, vu qu'on je disais au début, j'étais passé quand je suis venu aux États-Unis la première fois,
Ouais.
j'ai fait plusieurs écoles. Donc j'en ai fait en tout, j'en ai fait trois, dont Saint-Thomas-More. Mais du coup, ma première école où j'étais allé, je m'étais mal entendu avec le coach, etc. Vu que ça, en fait, il voulait que l'argent. C'était, on va dire, plus un escroc qu'autre chose.
Je vois.
Du coup, ensuite, quand je suis parti dans mon autre école, donc c'est l'école à Baltimore, justement, ce coach-là de la première école l'a appris. L'a su, car bah, forcément il devait transférer mes documents comment ça s'appelle, de visa, etc.
Ouais.
À l'école. Et du coup, il l'a appris comme ça. Il a fait, entre guillemets, je pense, la jalousie, vu qu'entre guillemets, Saint Francis Academy, c'était une très grosse école de foot américain. Même si c'est dans le ghetto, c'est quand même très réputé. Et bah, il a dit, bah, écoute, moi, je sais que cette école ne peut pas avoir d'étrangers. Donc, si tu restes dans cette école, j'appelle la police, des frontières. Et bah, ils vont te déporter. Du coup, de là, j'ai dû, avec bah, cette école-là, Saint Francis Academy, ils m'ont aidé. Ils m'ont fait, t'inquiète pas, on va t'aider. Et du coup, après là, je suis parti justement à Saint-Thomas-More. Donc, okay. C'est très peu de gens le savent. Donc voilà, je t'ai fait une petite news.
Bah, merci.
c'était bah, justement une des grosses galères qui m'est arrivée, on va dire. C'était le fait que j'ai failli rentrer en France et ne jamais revenir aux États-Unis.
Ouais, c'est bien de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient toujours les succès et qui ont l'impression que c'était très facile. Et c'est bien aussi se rendre compte que bah, en fait, il y a plein de trucs entre qu'on ne connaît pas forcément. Et là, dans ton cas, c'est encore un bel exemple que tout ne s'est pas fait tout seul. Quoi. Il a dû falloir...
Ouais, non, tout ne s'est pas fait tout seul, tout s'est pas fait dans la rose, comme on dit.
Ouais. Bah, du coup, à l'inverse, pour redorer un peu tout ça, c'est quoi un de tes plus beaux souvenirs dans ces 5 ans aux États-Unis ?
Un de mes plus beaux souvenirs, bah, on ne va pas se mentir, hein, ça va être quand j'ai décroché... quand je commençais à décrocher un peu toutes mes bourses universitaires.
Ouais.
Et le jour où justement Virginia Tech m'appelle, ils me font bah écoute, on t'offre. Hein. Et je me souviens là, j'ai demandé au coach de répéter, etc. J'ai fait, vous pouvez répéter, etc. Qu'est-ce que t'as dit? Il fait, ouais, on t'offre un scholarship, etc. Et du coup, ouais, c'était incroyable. Et du coup, à ce moment-là, je me souviens, j'avais appelé ma mère et je lui ai dit, ouais, maman, j'ai reçu un scholarship pour aller en universitaire et tout l'année prochaine et tout. Elle me fait, ouais, mais c'est combien? Elle n'avait pas compris, en fait. Elle me fait, ouais, mais c'est combien? Parce que, tu sais, moi, je ne peux pas payer. Hein. Elle me fait, mais non, j'ai un scholarship. Donc, en gros, c'est, j'ai une bourse, ils me payent tout. Et de là, elle me fait, ah, bah, bravo et tout. Mais ouais, c'était très marrant, mais c'était vraiment, ouais, le fait de décrocher cette grosse bourse universitaire. Je pense que c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Parce que c'était le début, entre guillemets, d'un rêve.
Ouais, j'imagine. Et du coup, après ça, le prochain, ça sera la NFL, le prochain grand rêve.
Prochain grand rêve, hein. Ça serait de mettre un pied, ouais, en NFL. Hein.
Ou prochain objectif, je devrais dire, plutôt.
Ouais, objectif, ouais. Ça serait d'atteindre la NFL, mettre un pied... Un pied en NFL, franchement, c'est pour un Français, entre guillemets, c'est un gros truc. Hein. Bah, même pour un Américain, mais surtout pour un Français.
Il y en a eu 3 ou 4, c'est ça, de Français en pro?
Du coup, là, il n'y en a que un. Donc Junior Ao, mon gars, qui est là, justement, il est en practice squad pour les Vikings, Minnesota. Donc voilà. Donc après, ouais, après ça, il y en a eu... Il y en a eu 3-4 avant lui. Mais ouais, du coup, on a été très peu à atteindre ce niveau-là. En vrai français, on va dire, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'après, il y a quelques Français, entre guillemets, par les parents, mais ils n'ont jamais vécu en France. Donc, ça ne compte pas en tant que Français.
Et parce que déjà, là où tu es, il me semble que tu avais dit seulement 4% des joueurs peuvent y arriver.
C'est ça. Donc là où je suis, ouais, c'est entre... Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais... Il nous avait montré la charte et c'était entre 4 à 6% de tous les joueurs high school aux États-Unis qui arrivent à atteindre le niveau où je suis. Et justement, après, pour ensuite passer en professionnel, c'est 1% de ces 4 à 6%.
C'est fou. Du coup, là, tu sais que tu... Enfin, à chaque fois que tu t'entraînes, c'est pour viser cet objectif qui est hyper dur d'avoir et tu dois rester confiant.
C'est ça.
Et sûr de toi, quoi.
C'est ça, tu dois rester confiant. Tu dois rester confiant et à la fin, tu t'entraînes, tu pleures, ouais. Tu as mal et tout pour peut-être jamais même mettre un pied en NFL. Mais c'est aussi ça, je trouve, la beauté du foot américain. C'est c'est ça te forge un mental, et pas juste pour entre guillemets le foot US, mais pour après la vie d'après entre guillemets. Parce que même si t'arrives pas à aller en pro, bah c'est pas grave, t'as eu une expérience que très peu de gens ont eu, et justement cette expérience t'a forgé un mental, t'as forgé un état d'esprit que beaucoup de gens n'ont pas, et que justement beaucoup de compagnies, c'est ce que le coach nous dit, beaucoup de compagnies cherchent et veulent justement ces athlètes-là, même s'ils ne sont jamais fait drafter, parce que bah, ils ont un état d'esprit qui est différent que, on va dire, ouais, une personne lambda.
Et donc là, pour toi, ce serait la draft l'année prochaine, pour la prochaine étape. Comment ça passe, la draft?
Donc, la draft, c'est un peu comme au basket, hein, vraiment similaire au basket. Donc, tu fais ta saison, et après ta saison, soit la NFL va t'inviter à faire des camps, un combine, ça s'appelle. Et ce combine, en fait, c'est tu viens et tu te montres, entre guillemets, bah, tu montres tes habilités à courir, d'athlète, entre guillemets. Et ensuite, ça, donc, si t'es pas, par exemple, si tu fais pas ça, t'as ce qu'on appelle les pro day. Donc, c'est un peu la même chose que les combines, sauf qu'ils viennent cette fois-ci dans ton université. Et tu fais les mêmes tests, mais au lieu d'être invité chez eux, bah, c'est eux qui viennent à toi, entre guillemets. Et après ça, bon, bah, voilà, t'as des meetings avec eux, tu vas parler avec eux, ils vont voir tes habilités, etc. Et après, tu as ce qu'on appelle, bah, le jour de la draft. C'est à peu près, sur 3 jours, où justement, bah, ils appellent un par un les joueurs qu'ils veulent dans leur équipe, et qui se font drafter. Donc, tu as à peu près 300 joueurs. Et ensuite, je crois que c'est sur une période à peu près d'un mois après, d'un mois ou 2 mois après, je crois, ils peuvent toujours t'appeler. Sauf que cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un free agent. Ça veut dire que tu n'as pas de contrat fixe, mais ils te proposent quand même de venir et faire peut-être partie de l'équipe. Donc voilà, donc, et encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas été drafté que tu ne peux pas avoir une très grosse carrière en NFL. Il y a eu des joueurs qui n'ont jamais été draftés, qui ont été justement free agents, et à la fin, qui sont quand même arrivés jusqu'à devenir Hall of Fame. Donc, encore une fois, la draft, c'est, on va dire, c'est plus un moyen sécure d'avoir un contrat fixe.
Ok. Et la draft, t'as qu'une seule chance d'y participer, c'est ça?
C'est ça. T'as qu'une seule chance.
Mais du coup, c'est pas la seule chance de devenir pro.
Non. Okay. Du coup, c'est pas la seule chance. Tu peux toujours devenir pro en tant que free agent.
Et tu me corriges si je me trompe, mais en gros, t'as une équipe qui t'appelle. Et toi, tu peux soit la prendre en disant, bon, bah, au moins j'ai un contrat, soit refuser en espérant une meilleure équipe au prochain tour.
Bah, alors ça, je sais pas. Ça, je crois que ça s'est jamais passé. Je crois que normalement, en général, quand on t'appelle, tu t'acceptes tout de suite. Je pense pas que tu refuses. Du moins, j'en sais rien. Parce que moi, de tout ce que je sais, c'est que si quelqu'un t'appelle, tu dis oui. Tu dis pas non à la NFL.
J'imagine, ouais. Et il y a une équipe particulière qui te fait rêver? Ou comme tu disais, toi, encore NFL, ça te va?
C'est ça. Moi, franchement, si je peux avoir ma chance en NFL, peu importe l'équipe, celle qui me prendra, ça veut dire que c'est celle qui me fait confiance, et du coup ça veut dire que je suis un gars très loyal. Ça veut dire que la première équipe qui va me montrer du love, bah je vais leur redonner en retour. Donc, ça veut dire que je serai à 100% avec eux. Donc franchement, peu m'importe qui me draft. Après, c'est sûr que ça peut être un peu dans les trucs chauds un peu, que le froid, je dirais. Je préférerais.
Mais en termes de ville ou de région, il y a des trucs qui t'attirent un peu plus?
Un peu toute la côte californienne, même un peu vers le Nevada, après un peu Miami, le Texas aussi, j'aime bien le Texas, Houston, trucs comme ça. Il y a des bonnes villes et tout. Donc voilà, en soi, c'est à peu près ces régions-là.
Et en tant que spectateur, j'imagine que la NFL, tu suis pas mal, ou tu es principalement focus sur universitaire en ce moment?
Après, là, en vrai, moi, je suis une personne qui regarde pas forcément tant que ça la NFL. Et beaucoup de gens, ils disent, ah, c'est bizarre, tu fais ce sport-là, mais tu suis même pas les pros et tout. Je suis, mais en général, je regarde, par exemple, tu vas regarder les gros gros matchs, donc par exemple le Super Bowl, ou si par exemple deux grosses équipes vont s'affronter, ou que par exemple j'aime un peu, j'aime bien, ou que je vois qu'il y a, ils ont ce jour-là que j'aime bien, et que si j'ai le temps, je vais regarder. Mais en soi, je suis pas un très gros spectateur.
Ok.
Je préfère jouer.
Ouais, je comprends. Là, je vois que le Super Bowl, j'ai l'impression qu'en France, ça intéresse de plus en plus de monde. Bon, y a beaucoup de gens qui regardent principalement concert, mais bon, ils parlent quand même du Super Bowl.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que ça va du bon côté, que les Français commencent à s'intéresser enfin à ce sport? Ou est-ce que c'est principalement pour le côté célébrité et après les gens regardent pas plus
Bah,
que ça?
tu sais, franchement, que ça soit juste pour entre guillemets, pour le concert ou autre, en tous les cas, ça force les gens un peu à regarder. Et ça veut dire qu'au fond, ça leur met l'idée que ah, le foot américain, etc. Donc je pense aussi que ça force les gens un peu à regarder et à vouloir un peu comprendre les règles, etc. Car j'ai beaucoup de gens, quand j'ai fait plusieurs interviews, ils me disent, ouais, je regarde pas forcément tout au long de l'année le foot américain, mais quand il y a le Super Bowl, je regarde. Et mais c'est vrai qu'ils disent que je comprends pas forcément ou autre, mais ça va être entre guillemets le moment où ils vont regarder le foot américain, qu'ils vont s'intéresser un peu plus au foot américain. Donc, si déjà les gens commencent un peu plus à regarder le Super Bowl, etc., et qu'après nous, bah, en tant que Français en plus, on peut le mettre un peu plus réputé en France, etc., bah, je pense à force, ça fera que le foot américain sera plus reconnu en France. Etc. Donc, je pense que c'est un bon truc. Donc voilà.
Et tu donnerais quel conseil à un jeune Français qui veut faire du football américain dans un pays où c'est encore si mal connu?
Je lui dirais, bah, boss. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai bossé, bossé, bossé. N'écoute pas les gens. Et si tu as vraiment envie de le faire, bah, fais-le. Genre, demande pas l'autorisation. Demande même pas à personne, entre guillemets, va chercher de par toi-même. C'est ce que entre guillemets j'ai fait moi. Et à la fin, bah, ça paye. Si ça paye pas, bah, au moins t'auras pas de regrets. Et au moins t'auras essayé. Mais après, encore une fois aussi, faut être réaliste aussi. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont venir sur moi, qui vont me demander, moi aussi je veux partir en universitaire. Mais ils ont jamais fait de foot de leur vie. Encore une fois, ça, c'est pas réaliste.
Ouais.
Donc, faut être réaliste. Et après, de là, tu fais par toi-même. Et n'abandonne pas, c'est tout. N'abandonne jamais.
Moi, ce que je vois dans ce que tu me racontes et dans les autres interviews que tu as faites, c'est que tu es un gros bosseur. Et que c'est pas forcément... Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile. Et je pense que c'est bien de montrer aussi que tu dois beaucoup bosser tout le temps, être très sérieux et que c'est comme ça qu'on y arrive.
C'est ça. De toute façon, si t'es pas bosseur, ils vont le voir. Ils vont le voir et tu vas t'humilier tout seul. Donc, t'as intérêt de bosser, t'as intérêt d'être un vrai bosseur. Et moi, c'est tout ce que je suis. Je suis juste un bosseur. J'ai un physique, un peu. Mais ce physique, je l'ai surtout obtenu par rapport à mon travail, etc. J'étais pas le plus talentueux, j'étais pas le plus fort, j'étais pas le plus tout ça. Mais c'est le travail qui a fait que j'en suis arrivé là.
Avant de finir, pour inspirer un peu les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous recommander un son ou une musique que tu associes à ta vie américaine? Que ce soit un truc que tu aimes écouter pendant tes entraînements ou juste que tu associes à un souvenir particulier?
J'écoute, moi en vrai, j'écoute beaucoup. Je vais pas te dire un titre parce que j'ai pas vraiment un son comme ça, mais beaucoup de sons afro.
Ok.
Ou justement un peu le côté un peu qui me fait danser. Comme ça, ça me fait évader entre guillemets un peu de la réalité, entre guillemets, du travail acharné, dur, etc. Car à chaque fois que je mets ces sons-là, bah, en fait, je me souviens de mes potes. Quand on danse, etc. Et souvent, on danse beaucoup sur de l'afro, de l'afrobeat, etc. Donc, beaucoup de sons comme ça qui me font penser à un peu à la France, un peu au bon moment de soirée, etc. Et du coup, ça me permet de me, entre guillemets, focus sur quelque chose d'autre ou de me détendre.
Et s'il y aurait un film ou une série qui t'inspire un peu et qui te donne envie de continuer?
Un film ou une série? Je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries, moi. Donc là, ça va être dur.
T'as un truc un peu qui te tient à cœur, que t'aimes bien voir ou revoir? Ou alors qui t'a particulièrement marqué en rapport avec le football américain, en rapport avec les États-Unis?
Un film ouais, qui m'avait pas mal marqué. C'est entre guillemets un bon film, je pense, américain, c'est Blindside.
Ok.
Par rapport à ce jeune noir américain qui, de base, entre guillemets, vit pas dans la rue, mais avec un des amis qui, après, s'est fait virer de chez lui. Du coup, il vit, entre guillemets, dans la rue. Et une famille l'a adopté, entre guillemets. Et ils ont fait, voilà, c'est une famille aisée qui avait forcément de l'argent, etc. Ils ont fait des sacrifices pour lui, ils lui ont donné l'argent, ils lui ont donné tout ça. Et à la fin, justement, il leur a redonné tout ça, par justement atteindre la NFL, etc. Donc, c'est un bon film. Et après, j'ai oublié, c'est un autre film, pareil, sur le foot américain, mais j'ai oublié ce nom, et ça m'énerve. Et en fait, c'était un. Comme je t'ai dit, t'as des free agents. Et là, c'est pareil en universitaire. T'as ce qu'on appelle des walk-on. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas de scholarship, mais qui sont quand même acceptées dans la team. Et en fait, ce jour-là, dans le film, c'est un walk-on. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de scholarship. Et il arrive à la fin, en fait, à décrocher un scholarship et justement à atteindre la NFL. Mais après, après, la fin n'est pas glorieuse, mais voilà. Mais parce qu'il décède, mais ça prouve qu'en travaillant, tu peux y arriver.
Ok, je regarderai, je mettrai le titre dans la note du podcast. J'essaierai de chercher ça.
Même si j'arrive à le retrouver, je te l'enverrai même sur WhatsApp.
Ça marche. Et du coup, pour finir, je voudrais conclure un peu sur ton beau parcours. J'ai vu une vidéo que tu avais faite sur Instagram où tu disais qu'à l'école, il y a beaucoup de profs qui ne croyaient pas vraiment en toi. Et aujourd'hui, tu es un des meilleurs joueurs de football de ta génération. Tu es dans une des plus grosses équipes. En plus, tu as été diplômé à Virginia Tech. Donc, tu as vu cette grande cérémonie de graduation qui est toujours assez impressionnante pour nous en Europe. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui n'ont pas forcément cru en toi, ou alors au jeune Wilfried qui ne sait pas forcément qu'il en arrivera là, ou alors qu'il savait peut-être?
De un, c'est que je pense, et aussi j'en suis arrivé là, justement, entre guillemets, j'ai même envie de dire merci, entre guillemets, à tous mes professeurs qui n'ont jamais cru en moi, et même aux gens, entre guillemets, qui n'ont jamais cru en moi, parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui m'a aussi donné la force d'en arriver là. Donc, j'ai eu beaucoup de professeurs qui ont douté et qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues tout au long de ma carrière scolaire en France, on va dire. Et du coup, franchement, si, je dirais aux jeunes Wilfried de l'époque de pas les écouter, de pas des fois forcément, vu que j'étais un enfant très, entre guillemets, très agité, je montrais pas forcément mes sentiments, mais du coup, je retenais tout ça et j'avais une haine quand j'étais plus jeune. Et je lui dirais, prends cette haine et justement, mets-la sur le terrain, mets-la dans tous les sports que tu fais. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Et j'aurais envie de lui dire, t'as bien fait et continue parce qu'un jour, ça paiera.
Bravo, bravo d'être arrivé. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la NFL. Je vais continuer à suivre ça.
Merci.
2025, du coup,
C'est ça.
c'est ce qu'on fixe pour voir où tu en seras et dans quelle équipe tu vas atterrir. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour ta participation.
Merci à toi, Arthur.
C'était hyper cool. Merci beaucoup.
Merci.